Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Yacouba Diawara, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à l'invitation de 48. Merci d'être avec nous, on le précise, dans les studios de Goom Radio, qui nous fait le plaisir de nous accueillir et de nous prêter leur studio pour cet enregistrement. Yacouba, vous êtes passé par Dijon, Southern Idaho, Pepperdine, Dijon encore, Bologne, Denver Nuggets, Miami Heat, Enel Brindisi, Varese, Venezia, Gravelines, Varese, Limoges, Caserte et Pistoia. C'est une très longue liste, on est d'accord?
On est très grande, oui.
Vous avez donc beaucoup voyagé. C'est quoi la suite maintenant?
La suite, bah, continuer à voyager tant qu'on peut, avec du plaisir, et de connaître d'autres villes et d'apprendre d'autres cultures, peut-être d'autres langues, on ne sait pas encore. Mais je pense que quand on peut voyager, on continue et ça me fait plaisir et d'apprendre beaucoup et d'apprendre d'un nouvel entraîneur, de nouveaux coéquipiers, on se fait des nouveaux amis dans un autre pays, donc c'est très intéressant de garder encore des contacts, des amis de Bologne, parce que ça fait quand même 10 ans et j'ai encore des contacts avec eux, donc ça fait beaucoup plaisir.
On sent qu'il y a le côté voyage, apprentissage, découverte compte autant que le côté basket presque.
Oui, c'est vrai, beaucoup, parce que tu fais beaucoup de connaissances, et comme on dit, après le basket, on sait jamais, j'ai eu déjà beaucoup de gens qui me demandent qu'est-ce que tu fais après le basket, vivre en Italie ou vivre aux États-Unis ou vivre en France ou faire du travail en France ou en Italie, aux États-Unis. Donc je suis un peu entre les trois en ce moment, donc je leur ai dit que j'étais ouvert, mais je pense que dans l'avenir, ce sera plus Italie, États-Unis, mais comme on dit, on sait jamais.
L'Italie, on a l'impression que c'est quand même devenu une deuxième maison. Vous aviez des affinités avant ou ça s'est fait vraiment au fur et à mesure?
Ça fait vraiment au fur et à mesure. Ça a commencé quand je suis arrivé à Bologne. J'avais fini mon cursus universitaire, j'avais pas été drafté, j'avais pas été retenu, j'avais fait quelques workouts avec des équipes NBA, mais je suis revenu dans mon club formateur à Dijon. C'est normal, après, de signer son premier contrat dans son club formateur, ça m'a toujours fait plaisir de revenir là-bas, et peut-être un jour finir aussi là-bas, on sait jamais. Et j'avais signé 5 ans, et j'ai en fait compte que j'ai fait que 5 mois et demi, parce que Bologne est venu me chercher la mi-saison, qui m'a proposé un contrat de jouer en Euroleague et d'apprendre un nouveau championnat, parce qu'à l'époque, je pensais qu'il n'y avait qu'Antoine Rigaudot qui avait joué en Italie. Donc c'était vraiment un très grand exemple. Et d'aller là-bas, et les infinités sont faites vraiment du premier jour. Et moi, ça m'a vraiment surpris, j'étais très excité. Et depuis ce moment-là, ils m'ont dit que tu arrivais avec les bras ouverts, tu souriais, tu respectais tout le monde, il n'y avait vraiment pas trop de différence. Je prenais le temps pour signer des autographes avec les gens, de prendre des photos, venir avant l'entraînement, rester après l'entraînement. Et je pense que les infinités sont faites au fur et à mesure, et la personnalité aussi, et du bouche à oreille. Et à la fin, ça continue. Je suis parti, ça s'est très bien passé.
Alors vous l'avez dit, au milieu de ces détours et de ces clubs italiens, il y a eu un passage en NBA avec les Denver Nuggets d'abord, le Miami Heat ensuite, donc c'était 2006 à 2010. Qu'est-ce qui a fait que vous n'avez pas continué en NBA en 2010?
Qu'est-ce qui a fait? Il y avait à Denver, ça s'est très bien passé. J'ai fait 2 années, première année bien, c'est un peu moins, mais c'est très bien passé. Après, j'ai eu la chance d'aller au Miami. Et au Miami, mon temps de jeu s'est vraiment réduit au niveau du temps de jeu, au niveau de la rotation. J'arrivais à un certain point de ma carrière, c'était soit rester en NBA, faire 10e homme, jouer une minute, jouer 20 matchs sur 82. Il y avait cette solution-là, ou de retourner en Europe, prendre du plaisir. De reprendre l'infinité que j'avais aussi en Italie, en France, les gens pourront vraiment voir jouer, parce que j'ai pas vraiment joué en France, parce qu'à l'époque j'ai fait 3 années espoir, je suis parti aux États-Unis, je suis revenu à Dijon, j'ai fait 4 mois et demi, 5 mois et je suis reparti, donc les gens, comme ils disent, ils me connaissent pas trop bien, par rapport, si tu demandes aux Italiens, ils me connaissent mieux qu'en France. Et c'est ça un peu qui fait un peu la différence. Donc j'ai préféré de plus l'aspect sportif que financièrement. Je voulais prendre du plaisir parce qu'à la fin, je joue au sport pour prendre du plaisir, de connaître des gens, vraiment d'aider aussi les jeunes derrière. Donc c'est ça qui m'a donné envie de rentrer en Europe et vraiment de jouer et de m'exciter, de m'éclater, de prendre du temps et de vraiment vivre le jour le jour.
Alors, on va revenir un petit peu quand même sur cette période Denver. Vous l'avez dit, pas mal de temps de jeu la première saison, 18 minutes, 19 titularisations, donc vraiment vous êtes utilisé à ce moment-là. 45 victoires pour cette équipe, sortie au premier tour des playoffs. Et alors il y a un effectif quand même assez explosif, on va dire. Vous jouez avec Carmelo Anthony, avec J.R. Smith, avec Allen Iverson, avec Kenyon Martin. George Karl, votre coach de l'époque, a depuis sorti un bouquin assez incisif quand même sur certains de ces gars-là. Vous gardez quel souvenir de l'ambiance dans ce vestiaire ?
Oh, super. Je me rappellerai toujours de la fois où j'ai signé à Denver. Et 3-4 mois après, ils disent que... ils font un trade pour Allen Iverson. À l'époque, Allen Iverson, c'était un de mes idoles. Bon, je me levais à 3h du matin pour regarder les matchs de Philadelphie, etc. Et de le voir à côté de moi, parce qu'on avait le même, mon casier était à droite, lui était à gauche, il était juste à côté de moi. De se lever à 4h du matin tous les soirs, et 4 mois après, ton idole est à côté de toi. Pour moi, c'était des images inoubliables. Même j'ai des amis qui m'appelaient, mais c'est vrai qu'il est à côté de toi, et des fois je leur passais, je leur montrais, on faisait des photos ensemble. Et moi je ne me rendais pas compte en fait, mais je pense que c'est après et c'est génial. Mais non, on avait un effectif très musclé avec des personnalités très différentes, et c'était vraiment les deux meilleures années là-bas que ça s'est super bien passé. On était un peu comme des rock stars où on allait, les gens nous attendaient avant, parce que quand t'as Allen Iverson et Carmelo à l'époque, Marcus Combi, Kenyon Martin, Nene, André Miller, Old Boy Kings, J.R. Smith, Lenis Kleiza, on avait quand même un effectif très huilé, très musclé au niveau des noms, et avec un entraîneur aussi, George Karl. Donc beaucoup de personnalités, c'était pas facile à gérer.
Ouais, d'accord, on est d'accord quand même.
Pas si facile à gérer, mais à la fin, on a pris du plaisir. Entre nous, ça s'est toujours bien passé, mais après, il y a toujours des éclats, des échauffouillons entre les entraîneurs et les joueurs, comme un peu partout, je pense.
Et alors, Melo, il défend un peu quand même ou pas ? Ou il est vraiment...
Non, il défend un peu à sa manière, mais comme moi je dis aux gens, si le mec il défend pas, il faut lui dire directement... face à face, mais après, je pense que c'est facile de parler après, de dire les choses. Mais aussi, je pense que dire le face à face, c'est pas facile, parce que c'est le meilleur joueur de l'équipe, ils font l'équipe autour de lui, les gens, ils viennent voir lui, ils viennent pas voir l'entraîneur. Si l'entraîneur, je sais pas, par exemple, il gagne 1 million et lui, il en gagne 20, à la fin, ils vont pas virer le mec qui gagne 20 millions, ils vont virer le mec qui fait 1 million. Donc, la NBA, c'est très difficile. C'est plus difficile qu'en Europe par rapport à gérer les joueurs, les superstars.
Oui, parce donc, que c'est George Karl qui lui reproche un peu la défense dans son bouquin.
C'est pour voilà, ça c'est ça. Il défendait à sa manière. Je pense qu'il aurait pu faire plus d'efforts.
Et alors, pour vous, qui êtes réputé pour votre défense, affronter Allen Iverson et Carmelo Anthony à l'entraînement, ça devait être quelque chose. C'est lequel le plus dur à défendre des deux ?
Ils étaient très différents. Avec Melo, plus physique, plus à l'intérieur, plus à l'extérieur, plus un dribble, deux dribbles par rapport au niveau des attaques. C'était vraiment difficile, Melo, parce qu'on avait à peu près le même gabarit. Et en attaque, il était vraiment, il pouvait shooter, il pénétrait, il pouvait faire un peu tout. Donc vraiment, j'étais vraiment servi à l'entraînement. Et quand j'arrivais en match devant les autres, je leur ai dit que quand tu t'entraînes avec lui, je pense qu'on m'était déjà préparé par rapport aux autres adversaires. Et Iverson, lui, c'était plus un contre un au niveau tout terrain. Dès qu'il a la balle, t'as l'impression qu'il descendait sur une colline. Et moi, je montais sur la colline, donc lui, il allait vraiment deux fois plus vite. Un très grand finisseur, même si tu lui mettais des coups, il arrivait très bien à finir, il avait des très bonnes mains, et un mental d'acier, comme souvent il a fait montrer. Donc c'était très deux joueurs différents, que ça te préparait vraiment, parce que 2-3 jours t'étais avec Melo, 2-3 jours t'étais avec Iverson, donc par rapport aux match-ups que j'attendais le lendemain matin contre Kobe ou les autres adversaires, j'étais prêt.
On a parlé avec Kevin Serafin il y a quelques jours, qui nous disait, quand je suis arrivé dans le vestiaire, on m'a testé, j'étais français, j'étais rookie. Voilà, il nous disait, j'ai failli en venir aux mains même quelques fois. Vous, ça s'est passé comment l'intégration au NBA ?
Non, moi, c'est très bien passé. C'est passé un peu comme en Italie. Je suis arrivé, je n'ai pas fait la grosse star. J'étais plus ébloui par rapport d'être en NBA dans un vestiaire NBA que d'aller m'affronter. Donc moi, quand je suis arrivé, Même si tu arrives un peu plus âgé que certaines personnes, tu donnes déjà le respect. Après, le respect, tu le gagnes au fur et à mesure. Mais si tu arrives déjà avec la tête haute, même si des fois tu arrives, on est en Europe, tu es déjà fort, mais tu arrives là-bas, tu es déjà rookie. Donc moi, j'ai pris mon rôle de rookie avec impatience. En plus, à l'époque, j'étais le seul rookie dans cette équipe.
D'accord. Oui, où il y avait du vétéran quand même.
Et c'était vraiment, je pense que ce qui a fait mon apprentissage le plus facile, parce que c'était vraiment une équipe vétéran qui avait déjà du métier, donc ils n'étaient pas là pour. Et moi, quand je suis arrivé, je rigolais pas trop, donc j'étais là plus vraiment, je savais que c'était business, on va s'entraîner, on va truc, parce qu'une équipe vétéran, c'est plus. Quand Miami, je dirais, c'était plus jeune, donc on rigolait plus. Mais là, je dirais à Denver, c'est vraiment, on venait, on s'entraînait, on faisait ce qu'on a à faire, et on partait. Donc moi, je me suis adapté très vite, arrivé aux mains, pas du tout, avec aucun des joueurs. Marcus Camby m'a pris sur lui. J'étais avec souvent Marcus Camby, un de mes meilleurs amis maintenant NBA, avec Néné aussi. Donc, je faisais mon rôle de rookie et quand il fallait faire des choses extra, je les faisais. Même si j'étais pas content, j'apprenais, je savais que c'était un an comme ça. Donc, j'apprenais. Ça me faisait même plaisir.
D'accord. Donc derrière Miami, 21 titularisations quand même, la première année, 43 victoires pour l'équipe, la première année se passe plutôt bien quand même.
Oui, la première année pas mal parce que je sortais d'une deuxième année de Denver pas trop mal. Et la première année, en plus, c'était la première année de Eric Spoelstra, l'entraîneur. Ils avaient vraiment changé. On avait vraiment un concept que pas trop mal au niveau de la défense, parce que quand il m'a pris, c'était plus dans le défenseur. Et j'avais vraiment essayé de faire le travail derrière. On a fini quatrième ou cinquième, je crois, de la saison. Donc c'était pas trop mal. Et au fur et à mesure, au fur et à mesure, ça s'est bien passé. Au fur et à mesure, je prends des playoffs, c'est descendu. En NBA, c'est souvent l'entraîneur, le club font souvent un truc au feeling. Donc ils se disent, ok, lui il joue, on n'arrive pas à gagner, il change un ou deux joueurs, il gagne, et il reste avec cette continuité. Donc derrière, c'est à toi derrière de reprendre, de retravailler, même si c'est pas facile, parce que si ça arrive, tu startes dans le 5 pendant 20 matchs, et dans ces 20 matchs, vous avez gagné que 7 matchs, et dans les 20 derniers, tu es sur le banc et on en gagne 18, eux ils voient la différence comme ça, et c'est comme ça les calculs, comme ils disent les stats et compagnie. Donc en fait, il faut trouver dans le bon moment, dans un bon endroit et dans un bon 5, en fait, dans un 5 équilibré, etc. C'était pas très facile, je dirais, la deuxième année. Je pense que ce qui a fait mon départ, j'aurais pu rester. Mais ils m'ont dit, entre moi et LeBron James, je leur ai dit que c'était difficile parce qu'il est venu l'année
Oui, c'est
d'après.
l'année où il arrive. Ouais.
Je leur ai dit qu'on peut pas mettre deux lions dans une cage. Donc ils ont
Ah ouais.
préféré prendre LeBron James. Non, je pense que j'aurais pu rester, être plus complémentaire, mais comme j'ai dit à la fin, j'avais envie de jouer et vraiment prendre du plaisir.
Ils vous ont proposé de rester même sur un petit contrat, petit rôle ou
Oui, on a parlé un peu, etc., mais il fallait attendre, parce qu'ils commençaient à finaliser le Big Three avec LeBron, et je pense que quand ils avaient signé ces trois joueurs-là, et derrière, ils allaient faire des petits contrats, parce que derrière, ils signent Shane Battier, Mac Miller, et ils ont fait des petites choses. Et je savais que si je restais, que mon rôle va être réduit encore plus. Quand tu vois Shane Battier qui signe, Mac Miller, donc c'est le même poste que toi, et derrière, LeBron James, et il y a Dwayne Wade, donc si l'année d'avant, je jouais 10 minutes, je pense que cette année, ça aurait été encore beaucoup, même si derrière, tu gagnes des titres, mais j'avais quand même envie de prendre du plaisir, c'est pour ça que je joue au basket. Parce que quand tu restes 8 mois, 9 mois et tu
Ouais,
fais que 10 matchs dans l'année, ça commence à peser.
on sent que c'était une priorité quand même pour vous de vous amuser aussi,
Oui,
quoi.
c'est clair, parce que j'ai commencé le basket pour m'amuser, prendre du plaisir. Les supporters, comme j'ai dit aux gens, si je voulais parler au business, je serais parti jouer en Chine, au Japon. J'aurais signé que des contrats, tu prends de l'argent et tu fais pas trop de connaissances, tu fais comme un pigeon voyageur, tu prends et tu t'en vas, quoi. Moi, je voulais vraiment aller dans des clubs où tu fais un peu d'infinité, tu prends du plaisir de prendre ce que tu as eu, de donner derrière. Et ce qui me fait vraiment plaisir.
Vous l'avez senti venir, cette signature de LeBron James dans le club, parce que c'est vrai que c'était une année de transition, en plus vous jouez pas beaucoup, et c'est une année où il lessive un peu à moitié l'effectif pour faire de la place, donc c'est un peu compliqué quand même.
Ça commençait un peu. Il commençait un peu à parler parce que lui, déjà, il a décidé je pense, il avait déjà dit que c'était entre Cleveland, Miami
Oui, il
dans
y
la
avait rencontré
décision.
des
Ouais.
équipes, ouais.
Donc, à la fin, quand j'ai vu que, pas la fin, quand tu vois que Dwayne Wade, un de ses meilleurs amis, et moi je connaissais un peu Dwayne Wade, ses meilleurs amis de lui, et derrière tu vois Chris Bosh qui signe, donc tu voyais que ça commençait à venir.
Alors, vous avez reflirté quand même avec la NBA aux certains étés. Vous avez eu quelques essais. Vous avez fait le camp des Grizzlies en 2015. Qu'est-ce qui vous a manqué du coup pour revenir à ce moment-là?
Pas grand chose. Je suis arrivé, ils m'ont proposé, je suis parti, je me suis dit, pourquoi pas tenter pour voir, ça coûte rien. Je suis parti, j'ai fait tout le camp, j'ai arrivé presque à la dernière signature. Mais ce qui a fait l'échec, ils m'ont dit qu'à l'époque, je crois le match, deux matchs avant, une semaine avant, Marc Gasol, il avait un problème au pied, il était blessé au pied. Donc ils m'ont dit, ils vont plus prendre un intérieur qu'un extérieur, ce qui a fait un peu la différence et un peu dégoûté parce que je pense que je me suis donné à fond et je me suis très bien entraîné que d'être coupé au dernier, parce qu'on était 15 et j'étais le dernier joueur.
D'accord.
Et de venir, et pas pour une, ils m'ont dit c'est pas pour une raison par rapport à toi, c'est juste pour une raison par rapport, parce que si Marc Gasol derrière, ils ont pris, qu'est-ce qu'ils ont pris derrière White, je crois, à l'intérieur, un peu mec, je ne sais plus, c'est son premier prénom, et qui lui a fait, il s'est blessé après deux mois.
D'accord.
Un peu les boules, mais c'est la loi du sport et c'est comme ça.
Un mot plus général sur la NBA, vous avez dit à Basket USA en 2010, quand je vois ce qu'on demandait à Allen Iverson à Denver et ce qu'on demande à Dwayne Wade à Miami, je me demande si c'est vraiment un privilège d'être franchise player. Vu de près, c'est si délirant que ça, du coup, leur vie.
Ouais, je pense que c'est 24 heures, 24, je leur dis, moi. Des fois, je leur demandais, je sais pas comment ils font au niveau familial, au niveau, il faut vraiment. Moi, je dis, quand je les ai vus, je leur dis, je respecte énormément un mental d'acier. Déjà, je leur dis, moi, mon niveau, comment ça se passe. Et je leur dis, entre moi et eux, c'est le jour et la nuit par rapport au niveau de basket, au niveau de la publicité. D'être tout le temps de là, de pas péter les plombs, de. Tu peux vraiment pas marcher dans la rue, tu peux vraiment même pas sortir avec les enfants, les déposer à l'école, faire des activités. Je leur dis que c'est. Il faut avoir un mental d'acier et peut-être vraiment avoir la tête sur ses épaules. Et je pense que la plupart, ils l'ont. Et moi, je leur donne mon grand respect pour ça.
Vous avez l'air d'avoir beaucoup de respect pour Dwayne Wade en particulier. Dans la même interview, vous disiez « Il aime prendre la parole, on sent que c'est un vrai leader. J'ai connu Allen Iverson et Carmelo Anthony à Denver, ce n'était pas la même chose. »
C'était différent. C'était vraiment deux côtés différents. Iverson, Carmelo, c'était plus... Il prenait les paroles, mais plus avec nous, les joueurs. Et Dwayne Wade, il prenait la parole avec les joueurs, et tu voyais vraiment avec le coach, avec l'entraîneur, qu'il y avait plus une infinité ensemble.
Mais c'est vraiment un leader dans toute la franchise, en fait.
Voilà. C'est, quand tu dis Miami, c'est Dwayne Wade, pratiquement.
Oui, il est emblématique, il est revenu.
Dave Kearney, comme il dit, c'est vraiment... Il a gagné le championnat avec eux, il les a sortis, donc c'est vraiment un leader exceptionnel, une personne aussi exceptionnelle que... Je garde encore des contacts avec des gens comme ça, c'est énorme.
Et alors LeBron James qui l'a rejoint, donc vous n'avez pas joué avec LeBron James, mais j'ai parcouru un peu notamment votre flux Twitter. Vous avez l'air d'avoir pas mal d'admiration pour LeBron James aussi quand même.
Pour moi c'est le meilleur joueur du monde. Je suis très un joueur du monde même. Pour moi c'est le meilleur joueur de tous les temps.
D'accord.
Donc je le mets devant Jordan. Tout le monde me dit que Jordan. Mais si vous regardez la carrière, oui, à part les 6 titres. Pour moi, il n'y a que ça, parce que derrière, si tu regardes au niveau des points, il le dépasse, au rebond, au passe. Donc après, si les gens ils disent les 6 titres, 6-0, je comprends énormément, mais 8 finales d'affilée, avec des équipes moyennes, à part Miami, et la première année, les deux premières années de Cleveland, les trois premières années, je veux dire,
ouais.
À part cette année. Donc pour moi, ce qui fait, c'est exceptionnel d'être, après 15 ans d'NBA, d'être à un niveau exceptionnel, un niveau physique exceptionnel, une condition exceptionnelle. Donc pour moi, c'est. J'ai tous les temps, une admiration énorme et j'aime beaucoup la personne, le joueur, et ça m'intrigue où il va aller, mais j'ai déjà une idée, donc plaisir.
Un petit pronostic?
Je pense en Californie.
Alors, plutôt jaune ou plutôt...
Non, jaune et violet,
jaune
je dirais.
Et violet,
ça m'étonnerait pas qu'il va au Los Angeles. Après, comme on ne sait jamais, mais je pense Los Angeles.
Et alors, à affronter, je reviens aussi là encore une fois sur des mots de Kevin Sarafan, parce qu'il m'a dit la même chose. Il a dit, pour moi, c'est le meilleur joueur actuel. Alors, on n'a pas eu le débat sur tous les temps, mais il m'a dit meilleur joueur actuel. Et il m'a dit, de toute façon, sur le terrain, c'est pas juste.
Non, il utilise son physique. Il me fait penser comme Shaq quand il était à Los Angeles. Si tu regardes de 2000 à 2004, beaucoup de gens, ils aiment pas trop, mais je dis, mon basket, tu joues avec tes qualités et ton physique. Si t'es plus gros que tout le monde, tu sautes plus que tout le monde. Tu vas pas te gêner à utiliser ton physique, parce que tu n'utilises pas, eux derrière, ils vont utiliser leur sien. Donc le sport, c'est un sport d'avantage.
Oui.
Donc si tu as l'avantage, il faut le prendre avec toi. Quand tu as un mec qui fait 2m5, plus de 100 et quelques kilos, et qui court comme un petit qui fait 1m70, c'est clair que c'est pas facile, qu'il saute deux fois plus haut, mais derrière, il a travaillé pour. Et quand tu regardes sa longévité de 15 ans, c'est que derrière, il a bossé aussi. Il faut regarder aussi ce qu'il a fait derrière, il a bossé énormément.
Un mot sur un autre personnage que vous avez croisé, c'est pas Trailey. Il a honnêtement, alors je dis ça parce que je l'ai croisé aussi une fois. On dirait un parrain de la... on dirait un mafieux d'un film américain avec les cheveux gominés, les bagues, voilà, les vestes rayées, enfin il y a un truc. Comment il est et qu'est-ce qu'il dégage dans la franchise quand on le côtoie quasiment au quotidien?
Très sérieux. Quand tu le vois, tu vois. Je pense que les gens, ils ont un peu peur. Quand j'étais arrivé à Miami, pas très. À l'époque, tu le voyais. Je pense que les gens, ils ont un peu peur de le côtoyer, mais quand tu le côtoies, plutôt sympa. Mais si tu le vois comme ça, les gens n'osent pas trop. Parce que tu le vois un peu mafieux, un peu à l'italienne, avec la coupe glacée,
C'est ça, ouais.
etc. Donc, tu te dis. Non, une énorme personne que je respecte honnêtement. J'ai eu des très bons rapports avec lui. Même quand je suis parti de Miami, il m'a demandé de. Si t'as besoin de quelque chose, t'as besoin de renseignements, t'as besoin de d'une lettre ou je sais pas, quelque chose que t'as besoin d'un service, je serai là énormément à chaque fois que j'en venais au Miami pour voir des matchs. Je l'appelais, mais ouais, Miguel, il me donnait des places, même pour la finale contre San Antonio. Je les ai appelés, je suis parti même les voir quand Miami est revenu après le 3 points de Ray Allen, j'étais
Ouais.
là. Donc non, on a toujours gardé une affinité business, personnelle, de respect. Même si tu parles du club, moi j'ai toujours été. Même si je suis parti, j'ai toujours gardé une bonne émotion avec eux. Mais c'est un personnage énorme avec des bonnes conversations.
J'espère que vous avez dit oui pour la lettre, parce que se ramener avec une lettre de recommandation de Pat Riley, pour tous les boulots, ça marche
Ah
normalement.
bah oui, énormément. Donc à chaque fois, si j'ai besoin de quelque chose, si tu veux poster pour un entraîneur dans l'avenir, et t'arrives à une lettre de Pat Riley, de George Karl, de la NBA. De coach très reconnu même en France, Jacques Mouclard, en Italie Repesa, donc Ricalcati en Italie. Donc je
Vous avez
pense
eu
que
du
les
coup bon plan.
gens, ils ah, quand même.
On va faire un petit break dans votre parcours, Yacouba, et on va passer aux 5 majeurs. C'est une rubrique très simple. Je vais vous demander le 5 majeur de vos coéquipiers. On est un dimanche, vous allez jouer un peu comme ça, vous avez 5 mecs à prendre avec vous, et puis vous tournez, vous faites le sixième homme, ou vous les coachez comme vous voulez. Qui vous emmenez pour jouer le dimanche matin?
Qui je l'emmène pour le dimanche
Parmi tous les
matin?
joueurs avec lesquels vous allez jouer, on a cité du très lourd, mais après vous pouvez aussi prendre des amis ou ceux que vous préférez.
Comme j'ai envie de gagner le joueur avec qui j'ai joué, je pense qu'à Allen Iverson, Dwayne Wade. À l'intérieur, je pense que je vais prendre Marcus Camby, un contreur.
Pas mal pour protéger la raquette.
Protéger la raquette. Bah, Allen Iverson, Dwayne, Carmelo Anthony. Nous un scoreur. Avec Dwayne Wade et Iverson, on a déjà trois scoreurs.
Là, on est bien. Offensivement, normalement, on est pas mal.
L'offensivement est bien. En 5, on a Camby. En 4, je prendrais Jermaine O'Neal.
Ah oui, c'est vrai que vous avez joué avec Jermaine O'Neal
ouais.
aussi.
À Miami.
C'était à Miami, oui, c'est ça. Il est passé par Miami. Joueur très talentueux, d'ailleurs, Jermaine O'Neal, hein, qui a été un peu gêné par les blessures en fin de carrière, quoi. Donc, non, alors, Iverson, Wade, Melo. On a dit, du coup, on vient de dire Jermaine O'Neal et Marcus Camby. Ça fait un très très beau 5. Et maintenant, je vais vous demander le 5 majeur de vos adversaires, les 5 joueurs les plus difficiles que vous ayez eu à défendre.
Plus difficile qui joue dans mon équipe ou en dehors?
Que vous avez affronté.
Qui a affronté Kobe Bryant, un ancien que je, Malcolm Red, shooter Milwaukee, Gilbert Arenas à l'époque, Eugene Giraud, il l'appelait, l'agent zéro, qui était très très pas facile à l'époque aussi. Il y avait Joe Johnson qui était à Atlanta, qui faisait aussi. Et il y avait Vince Carter aussi qui était à New Jersey, qui était pas mal non plus. Mais
Vous avez pas mis LeBron, mais c'est hors concours, c'est ça?
moi, c'est vrai, LeBron, quand j'étais. Il était plus jeune, je dirais. Ces
C'est vrai.
jeunes-là, étaient déjà. Ils avaient plus le vice. Je me rappelle LeBron James, quand je suis arrivé à Denver, c'était sa première, deuxième année. Il avait déjà du talent, mais il n'avait pas encore le vice. Claire, tu me dirais maintenant que c'est. Je le mettrais, mais quand je suis arrivé.
Kobe, il avait le vice, par exemple.
Oui, à l'époque, quand je suis arrivé en 2007, il commençait déjà.
Bah, il était en pleine bourre, là,
Ah,
de
il était
toute
en
façon.
pleine bourre. Et lui, Gilbert Arenas, Malcolm Red, non, ils avaient.
Gilbert Arenas, je vais vous dire, c'est un nom qui revient très souvent dans ce podcast. Michael Gelabal m'en a parlé. On en a parlé avec Kevin Serafin parce qu'il a joué avec lui. Et alors, je vous pose la question aussi du coup, mais quand on en parle avec des joueurs, ce qui revient souvent, c'est ça, c'est que ils payent pas forcément de mine physiquement, mais ça avait l'air d'être un talent incroyable à affronter, quoi.
Ouais, t'as rien, ouais. Dommage comment il a fini, mais quand je suis arrivé à Denver, il était en pleine bourre. Je pense qu'il était déjà drafté en deuxième tour, donc cette fierté de prouver. Et tout le monde disait Steph Curry shoot, mais lui, il commençait déjà à shooter du milieu de terrain à l'époque. Hein. Donc je dis aux gens, oui, Steph Curry, c'est pas le premier à avoir shooté aussi loin, parce que si tu regardes Gilbert Arenas, il shootait déjà 4 mètres derrière la ligne. Et on est vu physiquement, c'était. Parce que je me rappellerai toujours cette histoire. On joue Los Angeles à la maison et on gagne. Et en même temps, le jour d'après, Gilbert Arenas, il joue Los Angeles et il en met 65. Et on joue Washington le match d'après. Et George Kell, il m'appelle, il me dit, tu sais qui tu vas prendre? Je dis, bah, il vient de mettre 60 points, non, 65 points. Donc on est parti là-bas et j'ai pas défendu pas trop mal et on a gagné. Ah, derrière, bien. Après, il m'a regardé, il me donnait un sourire, mais j'étais très, très excité. Mais si, quand tu vois un mec qui met 65 points et tu dis, non, maintenant, c'est toi qui dois le prendre, t'as intérêt à être prêt.
C'est sûr, mais c'est bien, moi aussi, vous en gardez un bon souvenir déjà.
Ouais.
Mais c'est excitant ces défis-là quand on est, parce que vous êtes réputé pour votre défense, ça, c'est excitant quand le coach vous appelle la veille et dit, t'as vu ce qu'il vient de faire, demain c'est pour toi.
Oui, c'est très excitant parce que déjà, c'est une manque de confiance. T'arrives au rookie, première année, le coach dit des choses comme ça, je pense que c'est une manque de confiance. Je pense qu'il veut voir aussi un peu de caractère. Les joueurs disent, bon, ils sont un peu, moi j'étais très excité, et de prendre le challenge aussi. J'avais des choses à prouver aussi, de jouer contre les meilleurs joueurs du monde, et de prouver, et s'il fait un match pas trop mal les derniers, on gagne, tu prends de la confiance, tu gagnes du respect par rapport à toi, aux entraîneurs, et par rapport aussi à tes coéquipiers, parce qu'ils te challengent beaucoup, ils te vannent beaucoup, hey, regarde, et derrière, ils te font beaucoup de compliments, même si des fois ça se voit pas, mais derrière, c'est comme ça que tu prends la confiance avec eux, et tu t'affines un peu plus de plus en plus.
On va revenir à votre parcours, Yakuba, vous avez commencé le basket à 13 ans, à Tremblay en France. 13 ans, c'est assez tard par rapport à la moyenne des joueurs pros. Comment vous vous y êtes mis alors?
Foot au début, au foot, dans quelques années. Et après, c'était l'époque 90 et quelques, 97, c'est l'époque Michael Jordan. Mm. L'époque des playgrounds. Il y a beaucoup de 3 contre 3 dehors, l'époque Mustapha Sonko. Beaucoup de gens, je me rappelais de Paris, ils venaient dans les playgrounds, les blacktop, les tournois de Reebok 55, et on restait derrière les grillages et on regardait. Et ça m'a donné envie. Donc je me suis mis au fur et à mesure et à la fin. Comme on dit, j'ai kiffé, j'ai aimé et j'ai pris beaucoup de plaisir et j'ai décidé de changer, même si c'était clair à 13 ans, 14 ans, c'est très tard. Mais derrière, j'ai travaillé de récupérer le temps perdu.
Et alors, c'est allé assez vite, vous êtes formé à Dijon ensuite et puis vous partez aux États-Unis. Donc on l'a dit en début d'émission, Southern Idaho et Pepperdine, donc c'est des facs. Hein. Comment vous prenez la décision et comment ça se fait, parce que c'est pas courant à l'époque, hein, de partir à la fac comme ça aux États-Unis?
J'avais fait mon cursus avec Dijon pendant 3 ans. C'était soit, à l'époque, c'est l'entraîneur Chris Singleton, qui faisait pas trop jouer les jeunes à l'époque. Donc c'était soit rester à Dijon et faire le 10e homme, en pro à jouer 30 secondes, d'entraîner un peu, pas sûr de jouer. Et soit tenter quelque chose d'autre, l'attente universitaire. Au début, c'était pas trop ça, mais au fur et à mesure, C'est venu, et j'ai dit pourquoi pas d'aller connaître une autre culture, un autre pays, de travailler un peu, de traverser l'océan. Tout le monde dit que le basket se passe là-bas. Autant aller s'entraîner avec les meilleurs, jouer avec les meilleurs, et se mesurer un peu à eux, quoi, pour leur dire aussi que de l'autre côté de l'Atlantique, il y a aussi des joueurs français, européens qui savent jouer.
Donc toujours l'envie de découverte qui revient, on sent cette envie. Alors je ne l'ai pas précisé, Pepperdine, c'est vrai que ça parle peut-être pas aux gens, c'est en Californie. Hein. Ouais. Donc là, vous avez aussi une vie sympa, soleil oui, californien.
Malibu, c'est pas trop mal.
Ça va.
Quand on dit Malibu, tout le monde parle pas, mais Anderson, alerte à Malibu. Parce que je connaissais pas du tout la Malibu, je connaissais juste la télé comme tout le monde. Les palmiers dehors, il fait tout le temps 25 degrés. Et j'ai eu l'occasion de faire cette visite avec Pepperdine, St. John's in New York, DePaul à Chicago, l'Université d'Oregon et Florida State, qui était en Floride. Et je connaissais pas trop Pepperdine, donc j'ai décidé là-bas. Je suis arrivé le soir. Non, j'ai fait ma visite à Chicago, il faisait moins 20.
Tout de suite.
Donc je vais à Pepperdine en Californie, j'arrive à l'hôtel côté de la mer, en short et en claquette. Et à l'époque aussi, c'était un très grand joueur, un très grand Paul Westphal, qui était entré à Pepperdine, et que j'ai fait la connaissance. Et son style de jeu me convenait très très bien aussi, de courir, de défendre tout terrain, de shooter en moins de 10-15 secondes. Parce qu'à la fin, le jeu m'a transféré à Denver, parce que c'était le même style de jeu avec George Karl.
C'est vrai.
Run and gun, comme ils disent.
C'est vrai.
Donc j'ai décidé d'aller là-bas.
Et donc, vous revenez ensuite du côté de Dijon, donc non drafté. Vous vous attendiez plus ou moins à pas être drafté?
Oui, je pense que c'était difficile de sortir d'une petite fac, même si j'avais fait deux bonnes saisons. De sortir d'une petite fac, il fallait vraiment, à l'époque, les années 2000, il y avait vraiment des grands joueurs aussi à la fac. Et je pense que le basket, de 2004 à 2000, si tu regardes 2010, les noms de la draft, c'était vraiment LeBron, Carmelo, Chris Bosh. Il y avait vraiment du monde. Donc, j'ai eu l'occasion de faire des essais. Derrière, j'ai pas eu d'invitation au training camp ou autre comme ça. Donc, pourquoi pas revenir dans le club où tu as formé, de signer ton premier contrat. Tu sais que tu vas jouer, prendre du plaisir et aussi de leur rendre la monnaie, parce qu'ils t'ont quand même donné 3 ans, et derrière de re-signer dans un club formateur, je pense que c'est génial aussi de venir de leur prouver que je suis parti pendant 4 ans, mais vous pouvez voir la progression et de revoir les gens, et je pense que ça m'a fait plaisir énormément.
Alors vous revenez, mais vous revenez pas forcément très longtemps du coup, parce que la machine s'emballe quand vous revenez en fait. Dijon, vous êtes à 16 points, 16 points et demi, 5,7 rebonds de moyenne en 20 matchs, débauché par Bologne en cours de saison, on en a parlé un petit peu. Et en juillet 2016, signature avec les Nuggets. Donc en fait, en une année, vous êtes sorti de la fac, vous êtes allé à Dijon, vous êtes allé à Bologne et vous êtes signé par les Nuggets. Comment vous avez vécu cette année complètement folle qui a dû aller à 10 000 à l'heure au final?
Je me préparais comme je suis un voyageur, donc ça commençait à se préparer. Non, ça prouve que le travail a payé, que j'ai bossé, que j'étais très sérieux, que j'étais très reconnu, que j'ai eu la chance de. Jacques Monclar m'a donné l'expérience de jouer à Dijon, il m'a donné confiance. Derrière, il y a Repessa qui m'a aussi donné confiance à Bologne. Et que derrière, ils ont vu le progrès que j'ai fait par rapport à l'université, Dijon, l'Italie. Et d'aller directement à Denver de te proposer directement un contrat. Donc j'étais très plaisir, j'étais très content. Et féliciter aussi mes entraîneurs, parce que c'est grâce à, aussi un peu à eux, à Jacques, à Repessa, à Paul Wesson, parce que là, on a continué ce qu'on a travaillé. Et c'était un honneur pour moi. Et de voir, c'est clair que c'était une année qui s'est passée extrêmement vite. Même moi, des fois, j'ai eu du mal à me reconnecter, parce que j'étais là 3 mois, 4 mois, 5 mois, et de l'autre côté, je suis reparti. Donc. J'avais toujours dit à Paul Wessel que je reviendrais, donc plus vite que prévu.
Alors, à quel moment vous vous dites je suis prêt pour l'NBA? C'est mon truc, ou alors vous n'avez même pas le temps de vous le dire et.
Non, pas trop le temps de le dire. Parce que j'ai fini, je suis parti à Dijon. Déjà, j'avais signé 5 ans à Dijon. Donc je me suis dit, je vais faire 1 an, 2 ans, l'histoire de première année professionnelle. Et d'entrée, ça s'est passé énormément vite. Les résultats collectivement pas trop mais personnellement très bien, et que d'être le meilleur marqueur français après une année première année professionnelle, c'était pas trop mal.
Ah oui.
Élu d'un des meilleurs joueurs du championnat après 4 mois. Donc et après on enchaîne directement à Bologne. Bologne, j'ai eu l'opportunité, ils sont venus, ils m'ont appelé. Au début on n'était pas trop chaud comme je leur ai dit, mais derrière je savais qu'il y a l'Euroleague, championnat italien. C'est difficile de dire non. Beaucoup de gens disent, bon, il est peut-être pas prêt, etc. Et je vais là-bas et j'enchaîne. Je fais aussi une très bonne saison là-bas. Donc j'étais très surpris parce que tout le monde s'est dit, bon, là-bas, ça va mal se passer, comme tout le monde dit. Et ça s'est passé encore mieux. Et derrière, j'ai eu Masai à l'époque, qui travaillait
Ouais,
avec Toronto, qui était avec nous à Denver,
Masayu Jiri, ouais.
qui était venu, qui m'a vu 2, 3 fois. Et la troisième fois, il m'a dit, va nulle part. Et cet été, on se voit, d'après la saison. Je pense qu'après le match de Real Madrid, je me rappelle tout le temps, parce que je parlais avec Mustapha Sonko. J'ai fait un énorme match. Masai est descendu, il m'a dit, avec un grand sourire. Donc, il m'a dit, ton agent, ok, on est déjà en train de parler.
Et alors, vous partez donc en NBA, on en a parlé, et le retour ensuite, après la NBA, c'est l'Italie. Et alors là, j'ai envie de dire, vous êtes un peu le guide du routard du pays, parce que donc Bologne, Vindisi, Varese, Caserte, Pistoia, j'ai presque envie de vous demander quelle ville vous recommandez, laquelle il faut visiter en premier, où est-ce qu'on mange le mieux, comment ça se passe?
Si vous voulez manger la pizza, il faut aller à Caserta à Naples. Si vous voulez prendre des gros steaks, avec beaucoup de steaks, poulet, trucs grillades, c'est Pistoia et la Florence, la Toscane. Varèse, c'est plus les pâtes, fruits de mer, avec un peu de tout, avec du pain. Bologne, c'est plus les desserts, les cannolis, les tartes, etc. Brindisi, c'est un peu tout. On était en bas, c'était plus le sud, donc c'était beaucoup pêché, beaucoup de poissons. Si vous aimez beaucoup de poissons grillés, crevettes. Et Venise, plus romantique. Tu vas à Venise, c'est
C'est
plus
vrai.
toi et ta copine ou ta femme dans le bateau, visiter un peu et prendre du bon temps.
Vous voyez pourquoi il faut écouter ce podcast, c'est pour avoir les conseils voyage de Yacouba Diawara sur l'Italie. Mais en vrai, il semble quand même s'être noué une vraie histoire d'amour entre vous et ce pays, parce qu'on ne fait pas six clubs dans le même championnat par hasard quand même.
C'est dire qu'ils m'ont très bien accueilli, que je me sens très bien là-bas. Maintenant, je parle italien comme le français. J'ai beaucoup d'amis là-bas, des entraîneurs, des amis personnels, beaucoup de fans qui me demandent à chaque fois de revenir à Varèse, à Venise, ou j'ai à Bologne, surtout à Bologne. Donc j'ai toujours gardé une grande affinité que je fais même pas trop la différence. Même si tu es professionnel, tu gagnes de l'argent, même si je vois une personne dans la rue qui gagne pas l'argent, ou que c'est un fan, si on me demande, j'essaie de prendre le temps de respecter la personne d'abord par rapport à si je pense qu'il a fait la différence avec eux, qu'après match, avant match, gagné ou perdu, je prenais le temps de saluer, même si des fois t'es pas content, mais prendre le temps de saluer, parce que des fois tu peux saluer un gamin, tu lui donnes un sourire, et des fois c'est énorme pour eux. Et moi je me sentais par rapport, des fois je me mets aussi à leur place, parce que comme je viens d'un quartier Tremblay en France, pas très reconnu pour la banlieue, donc j'ai connu un peu cette expérience quand j'étais petit, et des fois je me fais des reflets, je me pense à eux, je me pense à leur place. Pour eux, on est des grandes figures, et de prendre le temps de leur donner ça, je pense que c'est énorme.
Et je peux confirmer, puisque je vous ai raconté l'anecdote en antenne, mais je peux la raconter à l'antenne, je peux confirmer que vous prenez vraiment le temps pour tout le monde, puisque quand j'étais jeune adulte, fin ado, j'ai en effet toujours une photo qui avait été prise avec vous devant Coubertin après un match de l'équipe de France. Donc c'est vrai qu'en plus, vous prenez le temps pour tout le monde. Sur le plan sportif, 13 à 15 points de moyenne selon les saisons en Italie. En plus, je veux dire, y a un vrai intérêt sportif. Vous vous éclatez en plus sur le parquet là-bas, quoi.
C'était l'option numéro une, de m'éclater, de voir aussi. Je connaissais pas trop l'ambiance des supporters, et quand j'ai connu à Bologne, pas critiquer l'ambiance française, mais c'était très différent là-bas, et ils prenaient vraiment le sport d'une autre façon. Déjà, je le voyais un peu au foot, mais là-bas, de voir que quand je suis arrivé à Varèse, que le sport basket passe devant le foot, c'est énorme en Italie, dans une ville, la Bologne. Donc les gens, le match à 8h, les gens sont là à 18h dehors à faire la queue, tout le monde a le maillot, tout le monde a l'écharpe. Je voyais ça qu'au foot et au basket, et quand c'est arrivé, cette émotion, on se donne à 100%, et je pense que tu joues mieux avec une salle de 5000 personnes qui fait du bruit qu'une salle de 2000. Donc cette émotion m'a vraiment touché. Je me sentais très bien aussi au niveau du basket, au niveau de la ville, et j'avais l'impression que c'était vraiment un jeu pour moi de prendre du plaisir, de jouer un peu fou fou fou, ce qui me faisait un peu. Ils étaient un peu fous, moi j'étais un peu fou sur le terrain. Quand dehors, je suis une personne totalement différente, quand les gens me regardent, ils me disent mais. Donc c'était très bien, et je pense que ça matchait et ça collait ensemble.
C'est vrai que vous le dites, vous êtes très très calme en dehors du terrain en tout cas.
Ouais.
Donc on le voit, enfin, on vous a reçu. Je veux dire, vous êtes très calme. Il y a pas de, c'est très différent en effet. Mais c'est vrai que ouais, cette foule, ça fait une différence aussi quoi. Ça vous porte.
Oui, énormément. Je me rappelais à Bologne, dans les comités, ils ont tous une chanson pour toi, à chaque fois que, pour chaque joueur,
C'était
ils
quoi
ont.
la chanson pour vous alors? Vous vous rappelez?
La chanson à Bologne, c'était Diawara, la 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 la, Diawara, la 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 la. Je me rappelais plus tout le temps de cette chanson.
Pas mal. Avant de retourner en Italie cette année, il y a eu un drôle d'épisode en début de saison où vous a un temps annoncé en Champions League. Alors, pas celle de foot, évidemment, mais un projet avec d'anciens joueurs NBA, Shawn Marion, Jamal Tinsley, Corey Maggette, Kenyon Martin. Alors finalement, ça s'est pas fait. C'est un truc qui est toujours un peu en gestation.
Oui,
Il y a
exact.
un site web qui existe, mais ils sont un peu en construction. Comment ça s'est fait? C'est des anciens copains qui vous ont rappelé? Comment ça
Oui,
s'est passé?
c'était pour les gens qui ont joué plus de 3 ans ou 4 ans NBA, qui est des vétérans NBA qui jouent pas trop aux États-Unis, et qui voulaient faire un peu. Je pense que les vétérans, ils sont mis ensemble, ils se disent pourquoi pas faire une petite ligue. Parce que la plupart des gens, les vétérans, ils pensent qu'ils peuvent encore jouer, donc prendre du plaisir pendant pendant l'été, parce que l'été, il n'y a un peu rien. Donc, ils ont dit pourquoi pas, ils ont mis en connexion avec. Un peu comme le Big Three de Ice Cube.
Oui, c'est ça. Ouais.
C'est un peu c'est de même manière, la même chose, mais du 5-5, en fait.
D'accord.
Donc, il y a eu un peu des problèmes avec les gens du Big Three, parce que normalement, le Big Three devait se finir et les gens du Big Three devaient passer au basket.
D'accord.
Dans le 5-5. Ouais. Mais il y a eu des problèmes, comme aux États-Unis, tout le temps financiers, des problèmes de télé. Donc ça s'est pas fait, c'est toujours en progression. Donc moi, il m'avait proposé, j'ai eu les contacts, parce qu'il voulait faire une équipe à Miami. J'ai dit pourquoi pas. Pourquoi pas de reprendre du plaisir là-bas aussi, là-bas, et finir un peu aussi en Europe. Donc de rejouer avec des amis qu'on a côtoyés, de reprendre des connexions un peu. Donc pourquoi pas. Donc aujourd'hui, j'étais prêt à jouer l'été.
Ça reste une porte ouverte, s'ils vous rappellent, et que ça se fait en des étés suivants ?
Oui, tout le temps, parce que les plus petits, ils commencent de fin juin, ils font juillet, août, ils finissent en septembre. Donc tu peux finir et derrière enchaîner avec un club européen, parce que tu arriveras directement prêt dans la foulée.
On va faire un deuxième interlude, Yacouba, dans votre parcours. Et là, c'est un instant un peu différent. On rentre dans la quatrième dimension. C'est l'instant quatrième dimension qu'on propose à tous nos invités. On arrive dans une dimension où le basket n'existe pas. Tout simplement, il n'y a pas de basket. Qu'est-ce que vous faites de votre vie ?
Je pense que chef, j'aime bien cuisiner.
C'est une épidémie, je vais vous dire, chez les joueurs de basket. Vous êtes le troisième à me répondre ça.
J'aime bien cuisiner, j'aime bien... Ou professeur. J'aimerais bien aussi d'étudier, de tout ce que j'ai appris, de donner aussi aux élèves, aux gens. Je pense que professeur d'éducation pour les jeunes, je pense que ça me plairait énormément.
Alors, on va prendre les deux l'un après l'autre. Chef, c'est quoi votre spécialité ? Je suis obligé de demander.
Moi, la pizza, les pâtes, comme j'ai vécu en Italie pendant 6 ans. La pizza et les pâtes un peu carbonara, la bolognaise, aux fruits de mer. La pizza, ça dépend que les personnes y veulent, margherita ou mozzarella, ça dépend ce que les gens...
Voilà.
Je mets ma propre pâte, je fais tout de...
Ah, vous faites tout,
tout du début à la fin, ouais.
D'accord. Bon, oui, un resto italien, ça marche toujours en plus en général. Donc ça, c'est vrai. Je vous donne le tuyau au cas où, mais ils n'avaient pas les mêmes spécialités. Mais Michael Gelabal et Kevin Serafin aiment bien ça aussi. Ils m'ont tous les deux répondu dans la cuisine aussi. Et donc le deuxième, enseignant, alors ce serait plutôt dans le sport ou... Oui, éducateur, quoi.
Éducateur ou enseignant des langues. Comme maintenant, je parle anglais, français... Un peu espagnol, italien, et j'apprends l'allemand, donc j'aimerais bien...
Oui, il y a une vraie envie de communiquer avec tout le monde.
C'est plus facile quand tu arrives dans un pays, que tu parles un peu la langue, même si tu fais des efforts, je pense que le courant passe un peu plus facile.
Yacouba Diora, prof d'italien. On a trouvé aussi une reconversion possible. Je vous pose la question, parce que encore une fois, j'ai remonté votre flux Twitter, j'ai vu quelques photos de jardinage aussi.
Parce que jardinage.
J'ai vu une photo d'une plante qui poussait, dont vous mettiez les photos. Alors je sais pas si c'est parce que vous aimez.
Ah si, jardinage, parce que j'avais acheté. Ça s'appelle Tower Garden. C'est
d'accord.
Une sorte de plante, machine blanche, tu branches avec de l'eau et que tu mettais les graines. Et au fur et à mesure, ça grandissait naturellement. Tu pouvais mettre des fruits aussi, d'accord. Des plantes. Comme j'aime beaucoup aussi les jardins, j'aime beaucoup ce qui est les fleurs, les tulipes, les orchides, donc j'aime bien que ce soit bien joli, bien propre.
Vous y pensez d'ailleurs déjà à la reconversion ?
Oui, tous les jours. Je penserais plus être... j'aimerais bien faire des... Ça me plairait bien de faire des camps, d'entraîner. Je pense qu'une équipe universitaire ou high school, ou des équipes des jeunes, comme j'aime bien leur donner ce que j'ai vécu, les conseils, etc. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes entre 15 et 18 ans que j'étais comme eux, qui ne savent pas s'ils veulent rester en France ou partir aux États-Unis ou faire des trucs comme ça. Je pense que je resterai dans le milieu ou dans la cuisine. Comme je dis, j'ouvre déjà mon restaurant bientôt à Miami et Atlanta. Donc peut-être rester dans les deux, dans un restaurant plus organique, dans la fit, les gens qui veulent perdre du poids... distribué dans les gymnases, etc.
Là, on va revenir au basket justement pour la dernière partie de cette émission et parler un peu de la France. Vous avez une belle carrière en bleu, 44 sélections.
Mm-hmm.
Vrai amour du maillot, vous faites partie de la fameuse génération Zadar avec Tony Parker, Boris Diouf. Vous gardez un lien particulier, tous les joueurs de cette équipe ?
Pas eu trop de lien depuis un certain temps. Quand je jouais un peu à NBA, oui, on se voyait, on se côtoyait parce que quand on jouait l'un contre l'autre. Plutôt avec J'ai la balle de temps en temps, Ronny Turiaf, Michael Pietrus, Boris une fois tous les temps en temps. Je dirais que c'est tout. Pas trop de non, pas trop de pas trop loin de temps en temps. Message sur Twitter, sur Facebook, mais sinon non, je pense que un peu dispersé un peu partout, tout le monde a des choses à faire.
Alors, vous avez été très présent en bleu, mais vous avez quand même raté quelques compétitions. Il y a des regrets quand même d'avoir raté l'Euro 2013, la Coupe du Monde 2014, où il y a un titre, où il y a une victoire contre l'Espagne.
Oui, beaucoup. Beaucoup de ne pas avoir eu la chance, de vraiment la chance que quand j'ai vraiment eu la chance en 2000, quand la génération 82, quand on a gagné à Zadar avec Pierre Vincent. Je sortais de Tremblay, j'ai fait 3 années à Dijon, de nulle part, on m'appelle. J'ai prouvé derrière, là j'ai vraiment eu ma chance, donc j'ai vraiment posé. Et après, pas trop, je dirais pas trop de chance, c'était vraiment passé à l'imprévu. Il fallait toujours prouver quelque chose pour être pris. Quand je vois, c'est comme pour les Jeux Olympiques 2012. J'étais quasiment pas dans la liste, mais je sortais d'une grosse saison en Italie et que pratiquement la liste était déjà faite. C'est moi qui l'ai un peu chamboulé parce que je sortais d'une grosse saison en Italie que on veut pas trop te prendre, mais on te prend parce que tu fais une grosse saison derrière. Et derrière, on te met en page de préparation. Bah, si tu joues mal, bon. Mais si derrière tu joues comme j'ai joué en Miami, j'ai joué exceptionnement bien. Donc c'était très difficile de ne pas prendre un joueur. Et c'était vraiment à chaque fois, ça hésitait, je dirais. On le veut, mais on ne sait pas. Donc après, je pense que c'est ça le regret de ne pas vraiment m'avoir donné ma chance à m'exprimer. Il y a toujours des petits trucs parce qu'on prend. On prend après en jeu, mais derrière on ne fait pas jouer. Donc je vois pas l'intérêt de te prendre si on ne te fait pas jouer. Je préférais prendre quelqu'un d'autre. Donc après,
On sent que la communication en équipe de France, il y a d'autres joueurs qui l'ont exprimé dans les médias, des fois c'est un peu confus, on
voilà.
dirait.
Très très confus. Moi, la vérité, pas trop de communication. C'était très difficile, très difficile. Il y avait vraiment, quand je regardais les autres nations, il y avait vraiment, c'était vraiment clair. Il y avait vraiment de la communication. C'est pour ça qu'on a mis du temps à gagner. Parce qu'à chaque fois, je regardais les équipes, je regardais les joueurs, je disais, mais comment ça se fait? On n'arrive pas. On perdait contre l'Espagne. Je dis, mais si tu mettais les 12 meilleurs joueurs avec une communication, je pense qu'on aurait gagné beaucoup de titres. Et je pense que c'est très. La communication, c'était très. J'étais très déçu par rapport à ça. La meilleure communication que j'ai eue, je pense, je dirais, c'était en 2000. En 2000, qu'on a gagné à Zadar, en moins de 18 ans. Et après, derrière, c'était. C'est très difficile. Et je pense que c'est ça les regrets derrière. Il y en a énormément.
Pour être dans le positif, vous qui aimez découvrir des choses, découvrir des gens, parler des langues différentes, les JO, par contre, ça devait être une expérience assez exceptionnelle.
Oui, exceptionnel. C'était mes premiers JO de voir, quand tu les vois qu'à la télé, tous les 4 ans. Je pensais pas que dans ma carrière que je jouerais aux Olympiques. Et on m'a appelé, c'était juste pour la compétition, c'est juste ça le coup exceptionnel de faire le tour du terrain, de voir toutes les nations, de voir des amis que j'ai côtoyés en Italie, aux États-Unis, les équipes américaines, qu'on a joué ensemble, Carmelo, Dwayne Wade, contre Kobe, de voir les autres nations aussi. Donc non, je pense que de voir des grandes personnes dans le parc, avec les joueurs du tennis, Nadal, Williams, Usain Bolt, joueurs de volley, tout ça, etc. Donc c'était une expérience inoubliable, je dirais.
Vous aviez le temps un peu d'aller voir d'autres épreuves, d'échanger avec des athlètes d'autres nations pendant le
J'avais
tournoi?
vu l'athlétisme, c'est un peu plus facile. J'ai vu l'équipe de France de hand aussi. L'athlétisme, le hand et je crois que c'est tout. Parce que derrière, après t'es entraînement, après t'es là, t'as envie de voir un peu tout. Donc trouver le temps, c'était très difficile.
Je me sens obligé de poser la question à tous les témoins, mais ça se termine contre l'Espagne, pas très bien. Le coup de Nicolas Batum à la fin, vous le vivez comment? Parce que le coup qu'il met à. C'est quoi, c'est Navarro? Je veux pas dire une bêtise. Qui
À
termine
Londres?
ouais, à Londres.
Ouais.
ça se termine un petit peu, on va dire, tendu, et il y a un petit coup de poing de Nicolas Batum qui part dans le short d'un adversaire. Vous vous en souvenez ou pas du tout de ce moment? Parce que c'était quand même assez chaud.
Ouais, un peu. C'était, je pense, une frustration. Je pense une frustration un peu tout le monde, parce qu'à l'époque, l'Espagne dominait un peu l'Europe, comme disaient les gens, dominait un peu la France. Parce que je me rappelais toujours que nous, on est arrivés avant eux, à Ovestir. On m'appelait Serge Bakel, il est arrivé avec une stéréo sur l'épaule. Il mettait la musique à fond, une musique espagnole. Donc les mecs, ils savaient qu'ils arrivaient déjà un peu cool, quoi. Ils se sont dit bon. Mais c'était même, dès que je me rappelle, j'ai eu des échos, ils étaient déjà contents. Je crois qu'on avait fini troisième. Eux, ils avaient fini deuxième, peut-être exprès, parce qu'ils savaient qu'ils allaient nous rencontrer en quart. Donc je pense qu'il y avait cette expérience de maturité pour eux. Et ils ont fait, comme je dis aux gens, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire.
Je pose la question sur le coup de Nicolas Batum, c'est juste pour... Parce que j'aime bien entendre dire, bon, en vrai on était un peu contents quand même, et ça faisait du bien. Voilà, moi, je dis ça parce que c'est tous les spectateurs qui ont pensé ça, alors je me demande comment les joueurs l'ont vécu, s'il y avait un petit... Bon, il l'a pas volé quand même.
Non, après, je m'en rappelais un peu, mais après, de mettre un coup comme ça, pour moi, en plus c'est Navarro, mais qui a 38 ans, je pense pas que derrière il va te remettre un coup. Donc, derrière...
Vous êtes trop poli en fait.
Derrière, après, tu me dis, il aurait mis un coup, je sais pas, à Marc Gasol ou à Sergi Baquet, genre, je serais plus impressionné par ça que par Navarro, je dirais.
J'espère que je dis pas une bêtise, hein. Je crois que c'était Navarro, mais j'ai peur de dire
oui,
une bêtise.
Oui, je crois, je mange.
C'était Navarro ou Loul, mais je sais plus. On va revenir en France, vous avez joué pour trois clubs français, Dijon, Gravelines et Limoges. Pas toujours facile, contrat rompu avec Gravelines pour avoir, alors entre guillemets, hein, c'est pas moi qui le dis, nuit à la cohésion de l'équipe. Je vous vois sourire. C'est une affaire qui partait d'un tweet où vous disiez que ça devait être sympa de jouer avec un vrai meneur comme Chris Paul. Apparemment, ils l'ont mal pris. Enfin, quelqu'un vous a dit ça doit être c'est sympa pour ton meneur actuel et vous avez dit bah oui et voilà. Et ça s'est pas très bien passé.
C'était à l'époque quand je faisais les allers-retours pour Beansport, les commenter oui, les matchs vrai. NBA. Et on regardait, je crois, il m'a demandé une question et il jouait comme j'aurais dit que Chris Paul c'est un joueur que j'admirais tellement, un meneur. Que pensez-vous de Chris Paul? Je dis, bah, ça doit être très intéressant de jouer avec un vrai meneur comme lui, comme Steve Nash, qui a changé les carrières de joueurs quand même. Si tu regardes Steve Nash, quand Boris Diaw il arrive à Steve Nash, à Sean Marion, il leur a quand même donné beaucoup d'argent, il leur a vraiment Stoudemire, tu regardes. Donc je dirais que c'est plus une reconnaissance de dire, et les gens l'ont mal répondu, pensant, qu'est-ce que tu pensais que tes meneurs vont réagir? Déjà, j'aurais dit que si mon meneur il se compare à Chris Paul, je lui dis, c'est bien, mais si toi, tu me dis... C'est comme si, Mathieu, tu viens me voir, tu me dis, c'est plus intéressant de jouer avec LeBron James. Je dis, ah bah, c'est clair, il est deux fois plus fort que Yaku, et si je pourrais prendre des trucs de lui pour revenir en truc... C'était tout sympa, il n'y avait rien de... Il n'y avait rien, eux, ils ont pris ça. Déjà, je pense qu'il y avait déjà une petite tension qui était déjà là, et que les gens ont mis ça, que les gens de l'équipe... Les gens de l'équipe, non, il y a deux joueurs de l'équipe, qui était déjà Gravelines, qui était déjà depuis 5 ans capitaine, qu'on dit ça par rapport aux autres joueurs, même si derrière ils ne voulaient pas que je parte, et donc, mais c'est difficile de jouer avec des joueurs quand il y a une tension et quand on parle derrière ton dos de mal et que les gens ne savent pas la vraie histoire de ce qui s'est passé, parce que si le capitaine savait la vraie histoire, il m'aurait appelé le soir même et j'aurais effacé ou rectifié, ou soit je serais venu le matin. Je ne parle pas de mon meneur. Le meneur avec qui je jouais, c'est Souleymane Diabaté, c'est un de mes meilleurs amis. Donc les gens qui ne connaissent pas la vraie histoire, donc, comme je disais aux gens, je n'ai pas voulu mélanger les choses. C'est ce qui s'est passé, c'est passé. Je ne voulais pas rentrer trop dans les détails parce que je pense qu'on aura fait une polémique. Et je leur ai dit, si je voulais dire la vérité, je pense que le club serait plus en dommage que moi parce que la plupart des gens qui me connaissent, je n'ai jamais, comme dit, craché dans un club ou traité un joueur. Si je veux le traiter, je l'appelle, on se voit sur le terrain, on se parle comme des grands et on fait ce qu'on a à faire. Donc c'était une mauvaise communication et avec Manchot, je pense que ça passait pas trop bien non plus. Donc ils ont lui qui cherchait la petite faille. Donc ça s'est fait, je leur ai serré la main. Merci de proposition, merci, bonne continuation. On passe à autre chose, même si eux derrière ils ont dit déjà autre chose. J'ai pas voulu tourner autour du pot.
Limoges, vous n'êtes pas resté très longtemps non plus, c'était un court passage, là il n'y a pas spécialement de problème, je veux dire, mais est-ce que c'est un petit regret, vous auriez aimé vous établir peut-être dans un club français un peu plus longtemps, sur la durée, avoir une présence ici?
Oui, c'est clair. À Limoges, je suis arrivé en novembre parce que je sortais de Memphis. Donc, j'avais une très bonne cohésion avec Philippe Hervé. Il m'a demandé de venir et Limoges, c'était un meilleur club français, Euroleague. C'était très bien passé. Et ce qui a fait qu'après 2 mois, Philippe Hervé l'ont coupé. Et je commençais vraiment à m'intéresser avec lui. S'il restait, je pensais aussi rester aussi avec lui. On parlait souvent. Il me demandait des conseils. Moi, je demandais souvent des conseils à lui par rapport au niveau du basket, etc. Ce qui a fait qu'ils l'ont coupé après 2 mois, qu'ils ont pris un traîneur serbe.
Oui.
Il ne parle pas un mot français. Et là, c'était le bateau a coulé dès le premier entraînement. Donc
Dès le
là,
premier entraînement.
ouais, le message n'est pas passé. Il y avait un traducteur, lui ne parlait pas. Il voulait faire les entraînements à la Serbie, 7 h du matin jusqu'à 20 h, jusqu'à 11 h le soir, parce qu'en Serbie, quand t'es le boss, je lui dis non, ici ça se passe pas comme ça. Donc le message était mal passé directement.
C'est vrai que le traducteur, c'était quelque chose d'assez cocasse pour avoir assisté à un de vos matchs cette année-là. Moi, en plus, j'étais derrière le banc. Il criait très très fort pendant un temps mort, mais du coup, vous ne deviez pas comprendre grand-chose. Et il y avait un traducteur qui traduisait lui à peu près calmement parce qu'il n'était pas aussi énervé avec le coach, mais en gros, on avait l'impression qu'il hurlait sur le traducteur qui faisait la traduction calmement. Donc, c'est vrai que ça devait être quand même assez bizarre à jouer
Ah,
comme
c'était
ça.
très très chiant. Je pense qu'il traduisait pas tout aussi. Je pense qu'il disait peut-être un quart.
C'est vrai qu'il devait
Donc,
peut-être édulcorer.
et c'est difficile. Donc après.
Et alors, au niveau des coachs, il y en a un avec lequel vous avez gardé un lien particulier, vous l'avez cité même déjà plusieurs fois, c'est Jacques Monclar, premier coach à Dijon, alors premier coach pro. Vous êtes toujours en contact, il y a toujours un lien actif avec Jacques Monclar?
Et tout le temps, depuis Dijon, c'est lui qui m'a donné le nom, le bison.
Ah oui, c'est vrai.
C'est lui, donc depuis tout le temps, depuis ça, depuis Dijon, toujours bien en contact. Quand je faisais le rapport Gravine Paris, Bein Sport, c'est un peu grâce à lui par rapport à ça. Donc, on a toujours été en contact. Je suis une personne que je respecte énormément, qui a toujours une place dans mon cœur, dans ma vie. Donc, il y a toujours un grand rôle au niveau du basket, en dehors du basket, quand j'ai besoin de conseils, quand ça n'allait pas, comment ça se passe, comment tu en penses. Non, c'est toujours une personne qui restera à jamais.
En 2009, vous avez dit à Basket USA, pourquoi pas à 36 ou 37 ans évoluer à Tremblay, c'est une possibilité. Actuellement, ils sont en N2, s'ils montent en N1 ou en Pro B, c'est tout à fait envisageable. Alors, ils sont toujours en N2. Est-ce que ça reste envisageable?
Tout le temps, oui. Ils n'ont pas passé le cap encore. Donc, non, tout le temps, parce que c'est ma ville. Comme j'ai dit, je suis parti. Pourquoi pas finir là, leur donner un coup de main aussi. Donc, c'est clair, ça reste toujours derrière la tête. Donc, difficile, parce qu'il y a eux qui demandent. Il y a les Italiens qui me demandent pourquoi ne pas finir ta carrière chez nous, parce que tu mérites plus chez nous. Des fois, le club de Dijon, pourquoi tu rentrais pas à finir? Parce que tu as commencé chez nous, tu as fini ton premier contrat professionnel chez nous. Pourquoi pas finir chez nous?
Ce serait une belle histoire aussi.
Ouais. Donc, il y a 3 histoires, donc c'est pas facile. Dijon, Tremblay et les Italiens. Donc, pourquoi pas de faire un peu un bout partout, un peu tout le monde, une année ou deux là, une année ou deux là et finir là.
Vous avez 34 ans, si je dis pas de bêtises,
35.
35. Vous comptez, alors peut-être que vous n'avez pas encore dit d'ailleurs, mais vous voyez jouer combien de temps encore là?
50 ans. Non, je plaisante. Non, je pense que j'arrêterai quand mon corps me dirait d'arrêter, quand j'aurai plus de passion. Vraiment, quand je prendrai plus du plaisir, que je me sentirai vraiment à la rue où j'ai mal partout, où j'arrive pas. Là, j'ai vraiment stop. Je sais pas si je peux jouer encore 4-5 ans à un bon niveau, faire 2 ans en Italie, peut-être si Tremblay monte peut-être 1 an là-bas. 1 ou 2 ans à Dijon, un truc qu'on ne sait jamais.
Vous manquez pas de possibilités en tout cas
Voilà.
pour l'instant. En tout cas, vous êtes toujours hyper affûté. Vous disiez quand mon corps lâchera, vous avez l'air quand même toujours hyper affûté. Sur Twitter notamment, vous mettez pas mal de vidéos de workout, d'entraînement, etc. C'est un truc, c'est une vraie question parce que vous êtes quand même un des joueurs les plus costauds qu'on ait eu en France et en équipe de France. Pour vous, ces séances-là, c'est du plaisir ou c'est vraiment un boulot et il faut ça pour pouvoir jouer quoi?
Non, les deux. Je pense qu'il faut prendre du plaisir aussi, parce que derrière la salle, et pas prendre du plaisir, c'est difficile. Comme je dis aux gens, quand vous allez au boulot, même si des fois c'est évident, mais il faut prendre du plaisir. Ce que j'essaie de faire, j'essaie de prendre du plaisir, parce que de travailler proprement, de voir aussi les fruits du travail, comment ça prend pendant 2 mois. J'aime bien aussi rester affûté, parce que C'est mon boulot aussi, c'est mon métier, mon corps, c'est mon mode de vie. Si j'arrive avec 10 kilos en plus, bah là, c'est difficile. Donc, il y a un certain professionnel, parce que quand tu regardes, à chaque fois je regarde, tu regardes les LeBron James, les Floyd Mayweather, les boxeurs, tu regardes les grands athlètes, Kobe Bryant, comme tu vois, c'est H24, même si pendant l'été ils disent oui, il faut se reposer, mais tu te reposes pas pendant un mois, tu peux quand même travailler d'autres aspects pendant la semaine, du yoga, du stretch, travailler un peu moins, mais de rester dans la continuité, parce que tant que professionnel, d'arrêter 2 mois et de repartir, parce que si tu arrêtes 2 mois, ils disent il faut 2 mois, après il te faut 4 mois pour revenir au truc. Donc, mais si tu continues, bon, je suis pas très flexible cette année. Bon, l'été, je vais passer mon temps à faire beaucoup de yoga, de stretch. Mais je continue aussi à travailler avec le basket, moins que d'habitude, mais au moins de garder cette proportion et d'être prêt physiquement.
Et de l'alimentation, ça fait partie de ça. Vous avez parlé un petit peu tout à l'heure de resto à Miami et Atlanta. Est-ce que c'est Green Lab Kitchen? Non,
Oui,
c'est
c'est
ça.
ça.
Parce que j'ai beaucoup vu ça aussi sur votre compte Twitter. Donc c'est un truc qui vous appartient et que
Oui,
vous avez
moi et ma
lancé.
femme.
D'accord.
C'est un truc qui nous appartient. Ma femme, c'est le chef, c'est elle qui cuisine tout, qui fait. On avait déjà commencé à faire des repas pour des gens à Miami, qu'ils avaient très bien apprécié par rapport à la portion qu'ils veulent. On avait des repas athlétiques, des personnes normales. Après, ça dépendait des repas, que tu peux leur signer des contrats, on leur donne 2 repas par jour,
D'accord.
le midi et le soir. C'est les gens qui n'ont pas trop le temps pour cuisiner, ou c'est les gens qui détestent cuisiner, ou c'est les gens qu'ils aiment bien avoir leur repas, comme ça c'est plus pratique. S'ils ont l'entraînement le matin à 10h, ils arrivent, le repas est déjà prêt, ils peuvent faire un autre entraînement et le soir, leur repas est déjà fait. Et c'est beaucoup les gens qui veulent perdre du poids, les gens qui veulent s'affûter. On faisait ça un peu à tout le monde. Moi j'étais plutôt dans le marketing, parce que j'allais dans les gymnases, on se présentait, etc. Donc si ça se marchait bien, on essayait de mettre un frigo dans leur salle. Et les personnes qui avaient signé avec nous, si bon, vous avez un entraînement de 10h à midi, donc moi j'arrivais avec les repas, ils étaient déjà prêts dans le frigo. Pour eux à midi, les réchauffer, c'est tout frais, donc réchauffer 30 secondes dans le micro-ondes. Tout était organique, tout était naturel, avec des jus de fruits aussi organiques, etc. Donc on a commencé par ça, les gens ils ont commencé à perdre du poids, ils ont que ça se passait très bien, ils ont continué, et bouche à oreille, ça va vite. Et on a bossé, et ça s'est passé énormément bien. Notre rêve, ça c'est de travailler avec les équipes NBA ou les équipes professionnelles, parce que quand tu vois, il y a beaucoup de. Maintenant, tout le monde est. Quand je reviens en France, maintenant, beaucoup de gens sont sur ça maintenant.
Bah oui.
C'est en Italie aussi, ça commence. Donc, c'est très bien de travailler avec les équipes, d'avoir déjà à l'âge de 15 ans, déjà des repas, déjà pas le McDo, pas les KFC, si tu as déjà 15 ans. Si j'aurais eu cette chance d'à 14 ans d'être déjà comme eux, je pense que ça changerait beaucoup.
Ça a changé pour vers quel âge pour vous la prise de conscience, dire voilà, il faut avoir une alimentation
Vraiment
particulière, très
tard.
cadrée.
Après, j'irais plus 6 ans, 5-6 ans,
Il y a 5-6 ans, ouais.
ouais, 5-6 ans, 7 ans. Je voyais, je mettais du triple XXL, etc. Maintenant, je mets du XL, même du large. Donc, il y a une grande différence. Tout le monde me voit, mais t'as perdu du poids, sinon, juste affûté. Mieux sentir aussi dans la peau. Jouer avec tes enfants, si j'arrive avec 30 kilos en plus, j'ai mal au genou, ma fille me dit on va sortir dehors. Donc il faut penser aussi à l'avenir et après le sport, même si c'est pas facile.
Et alors, c'est quoi l'alimentation? On va finir là-dessus. C'est quoi l'alimentation recommandée si je veux avoir les mêmes biceps que vous, du coup?
Ah, il faudrait que je vous donne
Parce
mon
que
corps là.
dites, bon, nos auditeurs n'ont pas l'image. Vous dites, j'ai perdu du poids. Vous êtes quand même toujours assez affûté. Vous avez des biceps qui dépassent quand même un peu du t-shirt. Donc, comment je
Non.
fais si je veux avoir les mêmes?
Soit une alimentation géniale et à la salle aussi, je pense qu'il faut coordonner les deux. Je pense que manger à 4 ou 5 fois dans la journée.
4 ou 5 fois.
Mais des petites portions.
D'accord.
Beaucoup de gens, quand je leur dis ça, ah non, je vais grossir, parce que non, en fait, ton corps, il s'habitue. Parce que les gens, ils disent, bon, si je mange qu'une fois dans la journée, je vais perdre du poids. Je dis non, parce que si tu manges qu'une fois dans la journée, ça reste, mais ton corps, il continue à manger les restes qu'il y a en fait à l'intérieur. Mais si tu manges des petit déjeuner à 10h, après tu manges à midi, après tu prends un petit goûter à 4h, après tu manges pas trop tard le soir, parce que moi j'ai l'habitude de manger à 10h. Quand les enfants sont venus, je mange à 7h maintenant.
D'accord.
Donc il y a une grande différence, parce que tu digères à 8h30, tu as déjà digéré, et que tu te sens mieux, c'est parce que si tu manges à 10h30, 11h, tu n'as pas digéré encore et ça reste encore. Donc je pense qu'il y a une alimentation et l'hygiène de vie aussi, et les entraînements derrière.
Bon, je vais essayer de concilier ça avec tous les conseils italiques que vous avez donnés, qui sont quand même très appétissants aussi au début.
Une fois de temps en temps, on peut...
Bon, en tout cas, merci beaucoup, Yacouba, d'avoir répondu à cette invitation. Merci pour votre sourire. Et c'était très agréable de parler cuisine italienne et basket avec vous. J'essaie toujours de caler un peu de cuisine dans cette émission, ça fait jamais de mal quand même. Merci beaucoup, en tout cas, Yacouba, pour la suite. Alors, on ne sait pas encore où exactement. Vous avez des opportunités, mais pour l'instant... vous savez
en
pas
Europe.
Où vous avez signé. Voilà. En Europe, voilà. Pour l'instant, c'est qu'on
Europe.
Reste en Europe.
En Europe, après, on ne sait jamais.
Et ben, on verra où ça vous nous mène. Et puis, on espère évidemment, du côté de la France, vous revoir, que ce soit à Dijon ou à Tremblay. Ce sera évidemment un grand plaisir. Et puis, sinon, on ne vous en voudra pas si vous préférez profiter des plats italiens jusqu'à la fin de votre carrière. Ça peut se comprendre aussi. Merci beaucoup, Yacouba. Merci à vous, les auditeurs, d'avoir écouté ce nouvel épisode de 48. On vous rappelle que si vous aimez l'émission, vous pouvez la soutenir sur Tipeee. Pas de pub dans cette émission et vos soutiens. On remercie d'ailleurs Jean-Charles Hérault, Jeff et Alexis qui sont les derniers. On remercie aussi Loïc le Dijonais qui m'a dit, je peux vous le dire, Yacouba, il m'a dit, enfin tu vas avoir un bon invité dans ton émission, enfin tu vas avoir un Dijonais. Donc,
plaisir.
On remercie Loïc aussi qui nous soutient. À très bientôt pour un nouvel épisode, on va terminer en musique comme d'habitude. Yacouba, est-ce que vous avez un titre que vous voulez entendre pour terminer cette émission?
Tupac, Keep Your Head Up.
Très bon choix, merci beaucoup Yacouba, à très bientôt dans 48. Ciao ciao. Say the blacker the better, the sweeter the juice. I say the darker the flesh and the deeper the roots. I give a holler to my sister's own welfare. Tupac cares if don't nobody else care. And I know they like to beat you down a lot. And when you come around the block, brothers clown a lot. But please don't cry, dry your eyes, never let up. Forgive but don't forget, girl, keep your head up. And when he tells you you ain't nothing, don't believe him. And if you can't learn to love you, you should leave him. Cause sister, you don't need me. And I ain't trying to gas you up, I just call them how I see. You know what makes me unhappy? That when brothers make babies and leave a young mother to be a pastor. And since we all came from a woman, got our name from a woman, and I came from a woman. I wonder why we take from our women, why we rape our women, do we hate our women? I think it's time to kill for our women, time to heal our women, be real to our women. And if we don't, we'll have a race of babies that will hate the ladies that make the babies. And since a man can't make one, he has no right to tell a woman when and where to create one. So will the real men get up? I know you're fed up, ladies, but keep your head up.
Keep your head up, child.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.